Alors, nous allons continuer cet après-midi sur deux aspects, c'est-à-dire donc on commencera sur une régulation française et européenne. Donc il y a un aspect quand même juridique donc sur la loi, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, pour essayer de savoir à peu près, puisque vous avez donc l'aspect économique qui permet de savoir si pour vendre une nanoparticule, par exemple, est-ce que c'est supérieur à 100 nanomètres ou inférieur à 100 nanomètres. Ce qui fait que soit on est hors la loi, soit on est dans la loi. Donc vous voyez déjà donc cet aspect un peu juridique. Moi, ça m'a pris énormément donc il y a 2 ans quand j'ai rencontré cet aspect juridique. On commence. Bien, donc nous allons continuer ce débat, cette confrontation d'idées, je dirais donc d'aspects beaucoup plus larges que son sujet de thèse. D'avoir à peu près donc un aspect scientifique et en même temps culturel au niveau européen, au niveau national, avec Madame Lacour, qui nous vient de Paris, Paris Sud, je dirais, donc l'UPS. Ce n'est plus Sabatier, mais Saclay, qu'on va voir tout à l'heure, qui va regrouper quand même, comme nous par exemple, plusieurs établissements de Paris. Oui, vous allez
Merci
commencer.
beaucoup. Du bureau nanosciences et sociétés du centre de compétences en nanosciences de la région Île-de-France, CNano IDF depuis 2009. Il pourra nous l'expliquer, Stéphanie, ce que ça veut dire. Merci.
Merci beaucoup. Bonjour. Alors, 2 mots sur le CNano Île-de-France, si vous ne connaissez pas. Hein. Le CNRS et le CEA ont créé il y a quelques années, sous l'égide du ministère de la Recherche, hein, des centres de compétences partout en France. Il y en a 6. Orienté précisément sur la question des nanosciences, qui regroupe des chercheurs de toutes disciplines s'intéressant aux nanosciences. Et une des spécificités du CNano, donc du Centre de compétences Île-de-France, c'est d'avoir un certain nombre de chercheurs en sciences humaines et sociales, dont je suis responsable, enfin, je ne suis pas responsable d'eux à titre individuel, je suis responsable du pôle qui les réunit. Voilà. Alors, quelle régulation pour les nanotechnologies? Je vais essayer d'aller assez vite. Je sais que vous êtes sur la digestion, donc je vais aussi essayer de ne pas être trop barbante. Je sais que le droit peut vous donner l'impression d'être par avance assez pénible, mais on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et l'idée, ça ne va pas être de rentrer dans le détail de tous les textes qui concernent en France et au niveau européen les nanosciences, nanotechnologies, nanomatériaux, mais de voir pourquoi on régule et comment on régule. Donc la première question, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dites, c'est où qu'il faut faire? Moi qui espérais faire ma maline. Il faut l'allumer. Bonne idée. Merci. Alors la première question, c'est réguler, c'est bien joli, certes, on a tous envie de réguler, mais réguler quoi exactement? En première intention, on régule des choses qui relèvent de l'infiniment petit, des innovations scientifiques et techniques émergentes, même si on va voir qu'elles émergent depuis quelque temps déjà, issues de recherches interdisciplinaires, des innovations génériques, et vous allez voir que c'est un point important, le caractère générique, des innovations qui suscitent des attentes extrêmement importantes, mais qui sont aussi extrêmement controversées. On va revenir sur tous ces points un par un. Alors, des innovations dans l'infiniment petit, j'imagine que vous l'avez entendu, réentendu ce matin, donc je ne m'étends pas sur l'échelle nano. Ça relève de l'infiniment petit, mais il y a quand même des implications dans le tout grand, hein. Alors, vous en avez là l'iPod nano qui, pendant longtemps, s'est appelé iPod nano sans rien contenir de très nano. Et puis maintenant, quand même, il a un paquet de composants nano à l'intérieur. L'exemple de la chaussure avec effet lotus anti-tache marche toujours assez bien. Et puis vous avez en bas tout ce qu'on trouve de nano dans une voiture à l'heure actuelle. Et vous voyez que les applications sont extrêmement nombreuses et on n'est plus du tout dans le nano, hein. On est dans des choses qu'on croise dans la rue tous les jours. Des innovations et des objets scientifiques et technologiques émergents. Alors, on pourrait penser effectivement que c'est émergent. La première fois qu'on en a parlé, des nanos, c'était en 59, c'était Feynman, il n'appelait pas encore ça nano, mais il disait effectivement, C'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais si on regarde tout en bas, il y a aussi plein de choses qui se passent. Et on en a tiré l'histoire a posteriori, il y a vu la première mention historique des nanos. Bon, c'est un peu une réécriture de l'histoire aussi, parce que le premier qui a utilisé le mot, il n'était pas américain, dommage, hein, il était japonais. Et c'était en 1978. Mais réellement, concrètement, le point de départ des recherches, c'est plutôt les années 80, avec le prix Nobel sur les fullerènes. Mais là encore, si vous assistez à des débats sur les nanosciences, nanotechnologies, eh ben on vous dira sans arrêt, certes, ça fait pas très longtemps qu'on fait des recherches dessus dans les laboratoires, mais des nanos, il y en a partout, depuis toujours. Il y en a sous les pattes des geckos, il y en a sur les feuilles de lotus, il y en a qui structurent les ailes de papillons et qui font ces merveilleuses couleurs. Et puis, il y en a aussi engendrés par l'activité humaine. Quand on fait un barbecue, on engendre un certain nombre de productions de nanotubes de carbone dans les vitraux ou dans l'assiette d'Amas. Là aussi, ce sont des nanotubes de carbone. Autre caractéristique fréquemment mise en avant pour savoir de quoi on parle en matière de nano, c'est le caractère interdisciplinaire des recherches. Alors c'est beau les nanos parce que toutes les disciplines scientifiques convergent pour créer des objets, penser des théories qui vont innerver toutes les disciplines d'application, et y compris les disciplines de sciences fondamentales également. Ça marche dans les deux sens, hein, les flèches. On le voit sur cette image-là, même si de loin vous devez avoir un peu de mal à la voir, elle vous donne simplement l'état des publications dans le monde en fonction des papiers qui citent des champs scientifiques en parlant de nanotechnologie. Vous voyez bien que différents champs sont systématiquement concernés. En pratique, quand on se penche concrètement sur l'activité des chercheurs dans leur laboratoire, l'ancrage disciplinaire reste très très fort. Hein. C'est-à-dire que on dit tout ce qu'on fait dans l'interdisciplinaire, mais on fait des nanos en physiciens, des nanos en chimistes, des nanos en biologistes, et l'interdisciplinarité, elle vient comme une couche au-dessus. Des technologies génériques, je vous ai dit que c'était important. Alors l'explication très simple de ce qu'on met derrière l'idée que ces technologies sont génériques, c'est qu'à partir d'une brique de base nano, on va toucher tout un tas de champs industriels extrêmement divers. Alors je vous ai pris là l'exemple du nanotube de carbone. On en trouve dans les cadres de vélo, de raquettes de tennis, dans les balles de golf, dans les clubs de golf. L'industrie du sport est très friande de nanotubes de carbone. On en trouve aussi dans l'industrie pharmaceutique, comme vecteur médicamenteux. On en trouve dans les plastiques, on en trouve dans les écrans flexibles, on en trouve dans le domaine énergétique, là c'est une batterie qui fonctionne sur l'effet ressort des nanotubes. On en trouve dans les composants électroniques, évidemment. Hein. On en trouve dans les textiles intelligents, là c'est la dernière génération de gilets pare-balles. L'armée aussi fait partie des secteurs qui sont très friands d'innovation nanotechnologique. On en trouve dans la dernière Corvette, hein, qui est jolie, hein, dans sa carrosserie en particulier. Et puis on en trouve, ça c'est mon préféré, dans les projets qui sont en concurrence dans le cadre du grand concours lancé par la NASA pour créer un ascenseur lunaire. Hein, le nanotube est très bien placé. Donc vous voyez qu'à partir d'une seule nanoparticule, on va toucher des champs industriels extrêmement divers, et ça, ce sera potentiellement problématique en termes de régulation. Pourquoi ? Parce qu'on régule plutôt de manière verticale, champ industriel par champ industriel, d'habitude. Par ailleurs, ce sont des technosciences. Alors, est-ce que c'est un vocabulaire qui vous est familier, technosciences ? Grumpf. Alors, il y a deux manières de l'expliquer de manière très schématique, et je pense qu'Alexei va bondir de sa chaise. Je lui laisserai l'explication philosophique. L'idée, c'est quand même que c'est un mot qui a été inventé, ou du moins pas mal diffusé, par Gilbert Hautois, un philosophe belge. Et l'idée, c'était de dire qu'il était difficile désormais de qualifier de scientifique des choses qu'on qualifiait habituellement de scientifiques. On ne fait plus de la science totalement séparée du monde opératoire, et on ne fait plus de la science purement contemplative. On utilise, pour faire de la science, y compris de la science fondamentale, de la technologie, on passe par la technologie, et la finalité est toujours plus ou moins opératoire. Ça, c'est le plan philosophique sur lequel je ne m'engagerai pas davantage. Il y a des philosophes dans la salle, ils vous expliqueront ça mieux que moi. Ce qui m'intéresse davantage en ce qui me concerne, c'est le sens que les sociologues ont donné aux mots. Et le plus souvent, quand on parle de technoscience en termes sociologiques, c'est plutôt pour dire que la science, à l'heure actuelle, la technoscience, a une finalité opératoire et que du coup, son financement ne peut plus ressembler à ce qu'il était au XVIe, XVIIe siècle et il se rapproche progressivement de modèles économiques qui sont ceux de l'entreprise. Avec les nanotechnologies, on est typiquement dans ce schéma-là. Et on va voir que ça a une influence, ça a une influence notamment sur la manière dont on vend la recherche, la manière dont on suscite du financement pour de la recherche. Et cette manière, eh ben vous allez voir qu'elle est très opératoire. Les nanotechnologies, elles doivent permettre l'unification des sciences et des techniques, le bien-être matériel et spirituel universel, rien que ça, la paix mondiale, l'interaction pacifique et mutuellement avantageuse entre humains et machines intelligentes. Je vous laisse lire le paragraphe, il est assez édifiant. Donc on vous promet des conséquences sociales très concrètes pour financer de la recherche. Ça c'est vrai aux États-Unis, c'était en 2002, c'est vrai aussi en Europe, hein, même si on rentre moins dans le côté Star Trek. On a quand même des promesses, progrès dans un grand éventail de secteurs, une réponse aux besoins des citoyens, contribuer à la compétitivité et aux objectifs de développement durable de l'Union. C'est génial hein, si on arrive à tout ça. En France, on a à peu près le même discours en 2009. Opportunité exceptionnelle pour l'industrie. Donc de l'emploi, donc des sous. Donc il faut financer. Et il faut financer en construisant des clusters de taille mondiale axés sur l'interdisciplinarité, on y revient toujours. La réactivité, donc il faut vraiment être dans une recherche finalisée avec des finalités très proches et des enjeux fondamentaux économiques et sociétaux. Bien. Voilà l'état des parties prenantes qui ont publié un cahier d'acteurs au moment du grand débat public français sur les nanotechnologies. Vous avez les logos de toutes les parties. Donc là, vous avez plutôt les organismes de recherche. Là, on voit apparaître les associations protectrices de l'environnement, du débat public science et société, des consommateurs. Là, vous avez les syndicats salariés et les syndicats patronaux concernés par le secteur. Les représentants des pouvoirs publics, soit autorités administratives indépendantes, soit agences d'expertise, soit conseils économiques et sociaux régionaux. Et puis pour terminer, celui que j'ai mis bien au milieu, dont on vous a parlé ce matin, l'Association transhumaniste française, parce qu'on a aussi la nôtre, hein, faut pas croire que ça n'existe que chez les autres. Il y a un seul parti, quand même, notez-le, hein, qui a souhaité contribuer de manière officielle, c'est Europe Écologie Les Verts. Et une seule association qui a été fondée exclusivement pour cette question-là, c'est une association grenobloise qui ont contribué à ce débat public. Alors, réguler quoi ? On a vu que c'était compliqué. Reste à savoir comment. Et vous allez voir que ça ne se simplifie pas. Quels enjeux privilégier ? À quel niveau intervenir ? Quels outils juridiques mobiliser ? Comment articuler les normes juridiques et l'expertise scientifique, y compris dans le domaine de l'application judiciaire de ces dernières ? Prenons les enjeux pour commencer, hein, c'est toujours simple de commencer par le début. Alors il y a plein d'enjeux autour des nanos. D'abord des enjeux pour la santé et l'environnement. Vous avez peut-être vu passer l'an dernier la campagne qui a été lancée par une ONG danoise contre Danone. Les sommants d'arrêter de mettre du dioxyde de titane dans leur yaourt pour les blanchir. Il y a des enjeux pour les libertés, libertés individuelles et collectives, alors les nanodrones évidemment, mais la société de surveillance généralisée qui peut être entreaperçue derrière la miniaturisation extrême des composants électroniques. Il y a des enjeux pour l'humanité, dont on a dû vous parler ce matin, j'imagine que Fernand vous en a touché quelques mots. Des enjeux géopolitiques dont on parle moins souvent, mais qui sont quand même très présents, lorsqu'on voit assez mal sur cette image-là. C'est un atelier de production de produits finis à base de métaux rares en Chine, là en l'occurrence. On voit qu'en termes de protection du travailleur, on a encore un peu de marge. Hein. Et puis des enjeux pour nos modèles économiques, et ça, ça embête bien tout le monde quand même, hein, parce que c'est là le cœur de la guerre. Des enjeux pour nos modèles économiques, entre autres parce que ces objets-là vont toucher de manière assez conséquente la manière dont on protège l'innovation dans les pays riches. On va vers une privatisation de ce qu'on appelle les briques de base de la matière, qui est assez bien reflétée par cette phrase issue d'un des premiers rapports qui a été publié par un cabinet de prospective économique sur les nanos, Lux Research, qui disait « La propriété intellectuelle paie pour les pionniers, ne pariez pas sur le jockey, ne pariez pas sur le cheval, achetez la piste. » Autrement dit, privatisez très en amont, dès le stade des recherches, et c'est comme ça que vous touchez le jackpot. Et on voit immédiatement surgir tous les problèmes qui vont découler de ce genre d'affirmation. Donc, quels enjeux choisir ? Pas évident, hein, vous avez vu qu'il y en a vraiment beaucoup d'enjeux sociaux liés au développement de ces technologies. Maintenant, comment les appréhender juridiquement ? Est-ce qu'on les attaque via des normes juridiques ? Ce serait le réflexe du juriste, hein, par exemple, mais ce n'est peut-être pas le premier réflexe à avoir. Via des normes éthiques, hein, est-ce qu'on commence à réfléchir dans les laboratoires, par exemple, à ces questions-là ? Des normes techniques, ISO, AFNOR, SEN, des normes scientifiques, socio-économiques. Une fois qu'on commence à avoir répondu à cette question-là, reste encore à savoir si on légifère au niveau du droit national, du droit de l'Union européenne, du droit international. Dans tous ces champs-là, qui vont être concernés par le développement des nanotechnologies, le droit de la responsabilité, mais aussi le droit du travail, ça vous a été dit ce matin, le droit de l'environnement, le droit de la santé, public et privé, le droit des propriétés intellectuelles, je viens de vous le dire, le droit de la consommation. Et puis, en termes d'outils juridiques, lesquels on mobilise ? Est-ce qu'on mobilise des contrats ? Ou plutôt des recommandations de la Commission européenne ? Des traités internationaux ? Ou plutôt des lois, avec leur cortège de décrets, d'arrêtés, etc., etc. Vous voyez que choisir un niveau d'intervention pour réguler, c'est tout sauf simple, hein, et que ces niveaux ils sont passablement complexes et entremêlés. Ça ne nous dit toujours pas ce qu'on cherche à réguler exactement. Alors, historiquement, ce qu'on a pu voir en s'intéressant à la régulation des nanotechnologies, c'est apparaître tout un tas de vocables sous lesquels ces objets se présentaient. On a commencé par parler de la nanotechnologie, l'initiative américaine. Elle parle de la nanotechnologie au singulier. Puis des nanotechnologies au pluriel, un peu plus tard, au niveau européen. Sachant que l'Europe, assez vite, a imposé une distinction assez forte, au moins dans le vocabulaire, je ne suis pas sûre qu'elle le soit tant que ça après dans les faits, entre d'un côté les nanosciences, de l'autre côté les nanotechnologies. L'idée derrière cette distinction est assez simple, j'y reviendrai dans un instant. C'est les nanosciences, ça relève de la recherche, donc de l'autonomie de la recherche scientifique, laissons les chercheurs avancer. Les nanotechnologies, elles vont avoir des applications sur le marché, donc on peut s'en préoccuper en tant que législateur. À la même période, on a vu apparaître des vocables un peu plus pointus, comme les nanosystèmes dans la feuille de route de la NNI, ou dans les programmes de l'ANR, ou les nano-objets, par exemple, dans le vocabulaire de la Commission européenne. Et puis, plus fort dans le débat public, on a aussi vu apparaître tout un registre de vocabulaire autour des nanomatériaux. On a commencé par parler de nanoparticules, puis de nanomatériaux, puis en précisant encore un peu de nanomatériaux manufacturés. Et puis enfin en France, parce qu'on aime faire les choses à notre manière, on ne parle pas ni de nanoparticules ni de nanomatériaux, mais de substances à l'état nanoparticulaire, et on a vraiment focalisé nos textes, les textes édictés depuis 2009 sur les substances à l'état nanoparticulaire. Donc vous voyez encore une fois qu'on a des technologies complexes, on a un système complexe, le système de régulation, et on a une difficulté pour nommer l'objet dont on cherche à s'emparer. Et cette difficulté, elle existe du côté du régulateur, elle existe aussi chez les scientifiques. Hein. Caractériser un objet nanométrique, caractériser un nanomatériau, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, l'OCDE travaille encore sur cette question-là. Et vous voyez que dans les éléments de caractérisation physico-chimique qu'elle a répertoriés pour s'attaquer à la question des nanomatériaux, elle en a répertorié 16. Ça fait quand même pas mal, hein. 16 éléments de caractérisation, pour une seule nanoparticule. Mais elle en ajoute un 17e, toute autre information pertinente. Tout ça pour qu'on soit d'accord scientifiquement sur le fait qu'on parle bien de la même chose. Hein. Ça n'a pas d'autre objectif, hein, tous ces éléments de caractérisation. Ça, c'est de l'oxyde de zinc. Toutes les images sont de l'oxyde de zinc. Vous voyez qu'à caractériser, ça risque de ne pas être tout à fait évident. Alors, des technologies complexes dans un système complexe, ça donne quoi ? Finalement, ça donne quelque chose, une chose à laquelle le droit est relativement bien habitué. Hein. Le droit, il appréhende plein de trucs hyper complexes qu'il va devoir réguler. Il appréhende le mariage, extrêmement complexe le mariage. Il appréhende la naissance, l'embryon. Il appréhende la création d'une société anonyme. Toutes choses extrêmement complexes. Il appréhende ça, par exemple. Quel est le statut de cette chose-là en termes de régulation ? Qu'est-ce que c'est, déjà ? On pourrait dire en première intention que c'est une vache. Jusque-là, je suis pas sûre, je suis à peu près sûre de ne pas me tromper. Et qu'elle est blanche et violette. Bon, pour le droit, ça n'est absolument pas ça. Pour le droit, c'est une chose, un bien meuble. Hein, elle n'est pas fixée au sol, elle se déplace. Donc c'est un bien meuble. Ça peut être un immeuble par destination si vous cherchez à la vendre en même temps que le corps de ferme dans lequel elle travaille. Un immeuble amortissable au regard du Code général des impôts. C'est aussi une œuvre de l'esprit, il fallait penser à la peindre en violet. Une marque commerciale, vous y avez tous pensé, j'en suis certaine. Il y a bien d'autres qualifications juridiques, je ne vais pas toutes vous les donner. Le fait est que pour le droit, c'est tout, sauf une vache violette et blanche. Pareil pour les nanotubes de carbone. Ce sont des nanotubes de carbone, certes, et on a du mal à les caractériser, mais pour le droit, ce sont des choses, éventuellement des inventions, quand on cherchera à les protéger par l'intermédiaire d'un brevet. Des substances à l'état nanoparticulaire, ça c'est le cas à l'heure actuelle en France, des nanotechnologies, des nano-objets, des ingrédients quand ils sont dans une préparation pharmaceutique ou alimentaire, des déchets lorsqu'ils arrivent en bout de course, à la fin de leur cycle de vie, des substances chimiques dans le cadre de la réglementation européenne sur les substances chimiques, des médicaments éventuellement, des particules atmosphériques ultra fines, et puis peut-être, mais on n'en est pas encore là, hein, des nanotubes de carbone monoparois. Mais finalement, le droit s'en fiche un peu. Le droit, ce qu'il veut, c'est réguler les inventions dans le cadre des brevets d'invention, les choses dans le cadre du commerce, etc. etc. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ben, concrètement, ça donne ça. En 2000, on parlait de la nanotechnologie. Et puis, on s'est dit qu'il fallait financer le développement de la nanotechnologie. Pourquoi ? Parce qu'il y a de grands espoirs scientifiques et technologiques derrière. Mais aussi, vous avez vu, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a de grandes attentes socio-économiques derrière. Beaucoup d'emplois, le bien-être et la paix universelle, etc. Donc il faut développer la nanotechnologie. Mais on a commencé à se dire en 2004-2005, il faut peut-être faire un tout petit peu attention, on veut développer les nanosciences, certes, dans les laboratoires, les nanotechnologies, on va commencer à regarder d'un peu plus près dans quel secteur ça a des impacts. Et en 2008, la position de la Commission s'est encore un tout petit peu affermie et elle a commencé à faire une distinction très forte entre d'un côté ce qu'elle souhaitait soutenir financièrement, la nanotechnologie, les nanosciences et les nanotechnologies, et ce qu'elle souhaitait surveiller, éventuellement réguler, les nanomatériaux et autres substances à l'état nanoparticulaire. Et puis là, on arrive en bout de chaîne. 2011, une recommandation européenne qui définit ce qu'est un nanomatériau. 2012, le décret français d'application des lois Grenelle. Voilà ce que concrètement, en bout de chaîne, on régule juridiquement. Donc vous voyez qu'on est parti de quelque chose de très large, dans lequel on investit beaucoup d'argent, et que ce sur quoi le législateur, donc la société à l'heure actuelle, estime qu'une régulation est véritablement nécessaire, c'est ce qui est tout petit en bas vert. Cette répartition des compétences entre la société d'un côté et d'autres sphères, la sphère scientifique pour la partie bleue, la sphère peut-être un peu plus économique pour la partie orange, et la partie verte, donc le législateur, cette répartition des compétences, elle a déjà été étudiée par des sociologues et des juristes, et en l'occurrence par une juriste qui s'appelle Sheila Jasanoff aux États-Unis, et qui a montré que ce déplacement de frontières et ces fixations de frontières entre ce qui relève de la science et ce qui n'en relève pas, ce qui relève du législateur et ce qui n'en relève pas, ça se fait de manière générale, de manière assez discrète, mais pour autant, ça a une influence considérable sur le développement de ces objets-là dans la société. Une fois qu'on a eu dit tout ça, on s'est dit, bon, mais quand même, il faut définir ce que sont ces substances à l'état nanoparticulaire. Pardon, je remonte une diapo. Ce que sont ces substances à l'état nanoparticulaire ou ces nanomatériaux ? Alors, vous voyez qu'entre nanomatériaux, où on pourrait se dire, tous ceux qui ont au moins une dimension à l'échelle nano, sachant que l'échelle nano, si je compte bien, ça doit être quelque part entre 0,1 et 1000 nanos. Hein ? Bon, ben on n'a pas dit ça, parce qu'on n'avait pas envie. On a dit, réglementairement, on va fixer que ça s'arrête à 100. On est encore dans le nanomètre, à 200. Mais on a dit que ça s'arrêtait à 100. Donc vous voyez que le champ il se rétrécit quand même de manière assez considérable. Et on a défini les substances à l'état nanoparticulaire comme matériaux manufacturés contenant des particules libres sous forme d'agrégats ou d'agglomérats, dont au moins 50% des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes. Attention, ça a une influence assez considérable sur les matériaux nanostructurés. Donc les dimensions externes se situent entre 1 et 100 nanomètres. Cette définition, on l'a adoptée alors même qu'on se posait la question de savoir si ce n'était pas une impasse de définir. On l'a adoptée dans un texte européen, une recommandation de la Commission, qui est assez rigolote celle-là parce que la Commission a publié le même jour sa recommandation donnant une définition qu'elle avait adopté sans véritablement tenir compte des travaux de ses groupes d'experts, mais passons. Et par un décret du gouvernement français suite aux lois Grenelle. Et au même moment, on avait dans le journal Nature un grand débat, c'est resté assez raisonnable, je vous rassure, entre deux auteurs, le premier Andrew Maynard, un auteur américain, disant « il ne faut surtout pas définir ». Pourquoi ? Parce que si on définit, on permet aux gens de contourner la définition, c'est trop facile. Et qu'en toute hypothèse, on ne peut pas définir tant qu'on n'est pas capable de caractériser véritablement ces objets, et ces objets, on n'est pas capable scientifiquement de les caractériser. Et un autre auteur européen, Herman Stamm, qui lui disait, c'est justement parce qu'on n'est pas capable de les caractériser, c'est justement parce que ce qui se passe sur le territoire européen n'est pas connu en matière de nanomatériaux qu'il faut définir. Pour au moins commencer à avoir de l'information. Alors on a défini, mais sans véritablement se poser la question de savoir pourquoi on définissait. Est-ce qu'on définissait pour développer les nanomatériaux, en mettre davantage sur le marché, pour mieux les connaître ? Ça paraît difficile, puisqu'on n'est toujours pas capable de les caractériser totalement. Pour les évaluer, c'est une des raisons qui apparaissent dans le discours de l'État français, par exemple. Est-ce qu'on les définit pour mieux gérer les risques qui leur sont éventuellement associés ? Toutes ces questions-là, elles appelaient certainement des réponses en termes de calibrage de la définition différentes. On a choisi de faire les choses à l'envers, j'ai envie de dire, de définir et puis ensuite de se poser les questions de savoir pourquoi on le faisait. Alors ça donne quoi ? Ça donne la nanotechnologie pour les stratégies politico-scientifiques. Les nanosciences et nanotechnologies, c'est ce qu'on veut développer dans le domaine de la recherche. Les nanomatériaux, c'est ce qu'on veut gérer en termes de risques. Et une obligation de déclaration en France depuis 2010 de toutes les substances à l'état nanoparticulaire qui est sanctionnée par le Code de l'environnement par une amende. Une amende au plus égale à 3 000 euros et une astreinte journalière de 300 euros par jour jusqu'à satisfaction de l'obligation. Alors pourquoi est-ce que je vous mets cet article qui en lui-même n'a rien de passionnant? Juste pour vous poser une question. Si je suis producteur, importateur ou distributeur de substances à l'état nanoparticulaire en France et que je n'ai pas envie de déclarer pour des raisons qui m'appartiennent, par exemple parce que je me dis que publiquement ça pourrait avoir un effet néfaste sur ma communication, par exemple parce que je me dis que je ferais mieux de ne pas savoir que j'en manipule, parce que le jour où il y aura éventuellement un problème, je veux pouvoir dire « je ne savais pas ». Donc je ne souhaite pas déclarer, je ne déclare pas. Mais dans mon entreprise ou dans mes concurrents, quelqu'un se rend compte que je distribue, importe ou fabrique des substances à l'état d'un particulier et demande donc à ce que, en application de cet article, je sois condamné à effectuer cette déclaration, puis à payer une amende, une astreinte journalière, etc., etc. Il va saisir un juge. Et le juge va devoir dire si je fabrique, distribue ou importe des substances qui correspondent à la définition que vous aviez sur la diapo précédente ou pas. Le juge, il n'est jamais formé pour évaluer ces objets-là. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va revenir au grand bleu là-haut. Autrement dit, on a défini un territoire du droit qui est ridiculement petit par rapport au territoire et de l'économie et de la science en matière de développement des technologies. Et pour rendre ce territoire-là concret, pour l'appliquer, le juge sera obligé de retourner vers l'expertise scientifique. Bilan provisoire, ça vous a été dit ce matin, en 2012... C'est pour vous montrer que c'est loin d'être tout à fait anecdotique quand même. 500 000 tonnes de substances à l'état non particulier ont été déclarées en France au titre de l'importation, la distribution à des distributeurs professionnels ou la fabrication de substances à l'état non particulier. En 2013, on a baissé, on est tombé à 400 000 tonnes, mais 400 000 tonnes avec plus 83% de déclarants. On a quasiment doublé le nombre de déclarants, donc d'entreprises qui se sont reconnues dans l'obligation de déclarer. Oups, tiens, ah c'est vrai, j'en fabriquais. En particulier dans le secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, ce qui est assez rigolo parce qu'on a obligé au niveau européen les produits phytopharmaceutiques à étiqueter la présence de nano dans leurs produits. Donc toutes ces entreprises-là, elles se sont réveillées là en se disant « bon, je vais étiqueter, je peux tout à fait pas... » faire semblant de ne pas importer, fabriquer ou distribuer. Et quasiment plus de 300% en plus de déclarations. C'est pour relativiser la chute de la masse globale déclarée. La définition des nanomatériaux, elle demeure plurielle. C'est-à-dire que vous avez une définition à chaque niveau à peu près. Une définition pour les normes techniques, une définition dans chaque réglementation sectorielle, on a une définition dans le règlement cosmétique des nanomatériaux pour les cosmétiques, on a une définition dans le règlement biocide des nanomatériaux pour les biocides, on a une recommandation de la Commission européenne, ah oui, j'avais commencé à vous dire ça tout à l'heure et puis j'ai arrêté, qui est rigolote parce que le même jour, elle a publié sa recommandation en disant c'est comme ça qu'il faut définir les nanomatériaux, et un document d'explication en même temps, qui n'a pas valeur officielle de recommandation, qui est juste un document d'explication dans lequel elle dit « on s'en fout ». Ce qui, pour les interprètes, est assez troublant. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Une définition du décret français. Cette recommandation, on en attend déjà depuis un an qu'elle soit réactualisée. Bref, tout ça pour dire que les efforts pour définir, pour savoir de quoi on parle, ont éclipsé une partie des préoccupations qui sont pourtant légitimes en matière de développement des nanotechnologies, préoccupations qui concernent l'information du public et plus largement le partage des informations disponibles, non pas juste sur les nanomatériaux, mais sur l'ensemble des applications nano. Vous avez vu qu'en matière de risques géopolitiques, en matière de surveillance généralisée, en matière de risque économique, on se fiche bien de savoir si on parle des nanomatériaux ou de la nanoélectronique, par exemple. La nanoélectronique, elle est totalement sortie des radars, là. juridiquement. Tout ça, ça a été laissé dans l'ombre. On a également laissé de côté la question de la traçabilité réelle des nanomatériaux sur un territoire donné pour une bonne et simple raison, qui est que l'obligation de déclaration française, elle s'arrête avant le public. Le dernier qui doit déclarer, c'est celui qui distribue à un autre distributeur, qui distribue à un partenaire économique. On est dans le B2B. Quand on passe au B2C, au business to consommateur, on ne déclare plus. Autrement dit, vous, en tant que public, vous ne pouvez pas savoir quels produits sont mis sur le marché contenant des nanoparticules et des nanomatériaux. Et puis enfin, on a une imbrication assez forte sur ces sujets, je vous l'ai montré, du droit français et du droit de l'Union, sans qu'on ait véritablement encore tranché à quel niveau il vaut mieux intervenir. Selon les deux rapports qui ont été publiés à l'issue des deux années de déclaration par le ministère de l'Environnement, cette déclaration, elle devait permettre de mieux connaître les substances mises sur le marché, leur volume et leurs usages, de disposer d'une traçabilité des filières d'utilisation, d'informer le public et les travailleurs, et on voit qu'on est assez loin du compte, de collecter les informations disponibles sur les propriétés toxicologiques et écotoxicologiques de ces substances. Là, c'est même pas qu'on est loin du compte, on n'a pas commencé. Et à terme, d'évaluer les mesures de gestion adaptées en fonction des populations les plus des populations les plus sensibles. Et ils notent tous deux, ça c'est le petit bonbon, la petite cerise sur le gâteau, les deux rapports notent que ce sur quoi on a mis le plus d'efforts réglementaires, ce qu'on a le plus cherché à réguler, autrement dit la caractérisation, l'identification de l'objet dont on est en train de parler, c'est ce qui pose problème à l'heure actuelle et ce dont on se rend compte en lisant les résultats de la déclaration française. Voilà, si ça vous intéresse, j'ai commis quelques bouquins sur ce sujet-là. Merci beaucoup.
Vous voyez, à partir d'aujourd'hui, le droit ne vous fait plus peur grâce à Stéphanie Lacour. Merci beaucoup d'avoir rendu ce sujet accessible, qui est un sujet très complexe. Donc, y a-t-il des questions d'ordre juridique ou pas, Non ? Vous devez en avoir.
Oui. Ah, pardon, j'arrive.
Oui, bonjour. Du coup, je me demandais, est-ce qu'il est, enfin, il existe quand même certaines lois pour réguler l'utilisation de tel ou tel nanomatériel ou telle nanotechnologie ?
Alors non. Ce qu'on a régulé, c'est le marché des nanomatériaux, et encore dans une faible mesure. Une des raisons étant, je vous l'ai dit, qu'on régule en silo au niveau européen, mais c'est le cas au niveau français aussi, et pas de manière horizontale. On n'a pas fait le choix, que ce soit au niveau international en France ou en Europe, de dire il y a une problématique générale nanomatériaux, on va scanner l'ensemble des régulations qui sont concernées, des réglementations qui sont concernées, et on va créer une réglementation qui prendra en considération la spécificité de ces objets. On a par exemple un règlement de 2009 sur les cosmétiques qui dit que les cosmétiques contenant des nanomatériaux doivent l'indiquer sur l'étiquette depuis l'été dernier. Donc si vous achetez de la crème solaire, vous allez voir sur l'étiquette, en tout petit, en général, entrecroché derrière la mention du dioxyde de titane, nano. On a une réglementation assez similaire pour les biocides et on s'oriente doucement, très doucement, parce que c'est un règlement qui est en discussion depuis 2008 et il n'a toujours pas été voté, vers une situation similaire dans le domaine des nouveaux aliments. Mais on n'y est pas encore. Mais on n'a pas de réglementation sur les nanotubes de carbone ou le dioxyde de titane, si c'est la question que vous posez.
Et alors moi, je pose une question. Comment êtes-vous arrivé à travailler sur les nanos ? Question par rapport à votre cursus, ça peut les intéresser.
Comment j'en suis arrivé à travailler là-dessus ? Bonne question. J'ai commencé totalement ailleurs. Moi, j'ai une thèse de spécialité en droit de la propriété intellectuelle, enfin droit des propriétés intellectuelles, une thèse de théorie du droit, de philosophie du droit. Et puis, après ma thèse, j'ai été recrutée pour travailler en contrat postdoctoral sur les enjeux juridiques de la société de l'information. Et j'ai travaillé en collaboration avec des informaticiens à cette occasion-là sur les enjeux juridiques de la preuve électronique, par exemple, mais aussi les enjeux juridiques liés à la protection des données à caractère personnel. Et en travaillant sur la protection des données à caractère personnel, je me suis intéressée aux technologies qu'on dit ubiquitaires, et notamment au système RFID, qui permettent de traiter de l'information sur la même personne à plusieurs endroits en même temps et quasiment en permanence, et donc de démultiplier et l'identité et la présence de cette personne sur les réseaux ou dans la vie concrète, et aux enjeux que ça posait en termes juridiques. Et puis, m'intéressant aux RFID, je me suis intéressée à la manière dont étaient fabriqués les RFID. Et pour fabriquer des RFID, ben on fait de plus en plus appel à de la nanoélectronique. Et du coup, j'ai mis le doigt dans les nanos. Et à partir de là, ben j'ai été aspirée par les nanos.
Parce que vous êtes une des rares à travailler là-dessus en tant que juriste.
On commence maintenant, à être quelques-uns. Ouais, j'avais monté un gros programme ANR là-dessus. D'accord. Ouais, mais plutôt des jeunes, oui. Ouais. Bon, il y a un petit coup à l'entrée quand même. Hein. Donc, ça ne suscite pas des vocations tous les matins. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Mais une fois qu'on a payé ce petit coup d'entrée, on s'y sent bien.
Ce n'est pas vraiment une question. C'est, j'ai du mal à comprendre pourquoi on cherche à trouver des lois pour bien classer les nanomatériaux. Par exemple, dans le rapport de National Science Foundation, on a vu qu'il y avait plusieurs intérêts, c'est soit la paix, soit la santé des hommes, mais... Par contre, dans l'interprétation française, on a vu que c'est une interprétation basée sur l'échelle physique. Et dans le diagramme que vous nous avez montré, on a vu que l'intérêt, c'est d'avoir du gain. Donc, ça ne sert à rien de mettre en place des lois qui cherchent à définir qu'est-ce que c'est le nano et comment l'utiliser. Car l'intérêt global, c'est toujours de gagner. C'est l'intérêt de la société et pas de l'homme en tant qu'individu.
Alors l'intérêt de la société, c'est quand même au final de gagner beaucoup d'argent et de créer de l'emploi. Mais si au passage on peut éviter de tuer trop de monde, c'est pas mal non plus. C'est en partie pour ça qu'on régule. Et c'est en partie... alors la réponse est un peu provoque, hein. Elle est facile. Non mais ceci étant, ce que j'essaie de vous montrer, c'est pas tant qu'on avait besoin de réguler la définition des nanomatériaux, j'essayais au contraire de vous montrer que pour le système juridique, c'était assez indifférent qu'on les définisse ou pas. On peut très bien les réguler sans les définir. Hein, en considérant que ce sont des ingrédients dans un produit cosmétique, des ingrédients dans une denrée alimentaire ou des inventions pour le droit des brevets. Si on a choisi de le faire, pour le dire de manière un peu rock'n'roll, mais c'est le début de l'après-midi, je peux me permettre, c'est aussi parce que ça permet de ne pas répondre à toutes les vraies questions. Vous voyez que parmi tous les enjeux qu'on avait, les enjeux sociaux qui sont liés au développement des nanotechnologies, il y a de vraies questions sociales dont le droit aurait pu prétendre être concerné, par lesquelles le droit aurait pu prétendre être concerné. Et bizarrement, on a choisi de focaliser sur une question qui n'a pas de réponse. Savoir comment est-ce qu'on définit véritablement, scientifiquement, les nanomatériaux. Déjà, ça ne peut pas être une réponse juridique. Hein. Le droit, il ne fait pas de la science. Et d'autre part, cette réponse, une fois qu'on l'a, elle est toujours insatisfaisante. Pourquoi ? Parce que les connaissances ne font qu'évoluer. Mais pendant ce temps, on ne parle pas de plein d'autres choses. Et parfois, c'est avantageux de ne pas parler toujours de plein d'autres choses. Mais parce que le système de priorité ou le système de classement des nanomatériaux en grande famille, par exemple, j'ai entendu qu'en vous en parler ce matin, il n'existe pas encore véritablement.
Bonjour, Serge Zaka de Lusignan. Moi, j'avais une question. Alors, c'est pas pour donner des idées à mes collègues étudiants aussi, surtout en chimie. Mais qu'est-ce que vous en dites si on pouvait utiliser, enfin, je le dis pas pour moi, hein, si on pouvait utiliser ces nanotechnologies pour du terrorisme ou s'il y avait des fuites, par exemple, dans des usines, est-ce qu'on est paré juridiquement pour faire face à de tels cas ?
Les nanotechnologies et le terrorisme. Alors, vous pensez la question en termes de risque chimique, par exemple ?
Bah, je pense du risque chimique ou biologique. Ou...
Alors, vous savez que ça fait partie des choses, hein, qui ont justifié les premiers débats publics et les premières mobilisations de pouvoir public autour des nanos. C'est la question de la gelée grise, hein. Toutes ces nanoparticules qui allaient s'allier pour finir par recouvrir la Terre et l'étouffer sous leur pression. C'est la question des nanodrones et des essaims de nanorobots que Crichton a repris dans Prey notamment. Toutes ces questions-là, elles ont été à la source des premières mobilisations. Alors, c'est l'anecdote vaut le détour. Le premier qui s'est mobilisé sur ces questions-là, en Europe en tout cas, c'est le prince Charles. Comme quoi, on peut toujours espérer de la royauté anglaise. Donc la première fois qu'on a vu véritablement apparaître de manière très forte sur la scène publique, grand public, hein, les questions de nano, ça a été via une question de sécurité nationale. Pour autant, allez, comment vous le dire gentiment ? À l'heure actuelle, on n'est pas paré, ni juridiquement, ni technologiquement, pour répondre à la question des drones. Donc vous imaginez, pour ça.
Mais non. Si jamais il y a un problème demain... Paris, par exemple, comment on peut traiter ça au niveau juridique ? Si on n'est pas paré, c'est un peu embêtant.
Je ne suis pas sûre que la première réponse qu'on envisage dans une hypothèse d'attaque terroriste ou de guerre technologique, ce soit la réponse juridique. Hein.
Oui. C'est... Ok.
On a les accords de Genève. Tout ira bien. On se tuera proprement les uns les autres, mais on va quand même commencer par se tuer les uns les autres.
Bonjour, donc Damien, docteur en physique, merci pour cette présentation. En fait, je voulais vous demander, donc déjà, bon, ça, je rebondis un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure, la définition de la nanotechnologie, que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on est obligé de définir cette nanotechnologie. Parce qu'en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que si on essaie de faire une définition de la nanotechnologie, c'est pour parer son danger potentiel. Mais la définition juridique, elle ne devrait pas partir sur son danger potentiel plutôt que de caractéristiques physiques. C'est-à-dire que l'objet fasse 101 nanomètres ou 99 nanomètres, qu'est-ce que ça change si c'est dangereux ? En fait, je ne vois pas où c'est qu'il y a un vide juridique pour aller...
Alors, non, c'est une vraie question que vous posez. Tout à l'heure, j'ai dit de manière un peu provocante que les nanos, finalement, c'était, l'échelle nano, c'était entre 1 et 1000. Et que là, on avait décidé de manière assez arbitraire, hein, que les choses se passaient entre 1 et 100. C'est assez arbitraire et ça ne l'est pas totalement non plus. C'est-à-dire que les premières études toxicologiques qui ont été publiées semblaient montrer, c'est pas vrai dans tous les cas, c'est pas, mais semblaient montrer que les nanomatériaux et nanoparticules avaient un effet toxicologique en termes de danger plus fort quand ils étaient de petite taille nanométrique que quand ils étaient de plus grande taille. Alors il y a eu des discussions dans l'agence européenne, le SCENIR, sur les risques émergents, par exemple. Eux penchaient plutôt pour une première bande entre 1 et 100 qu'il faut systématiquement surveiller, et puis entre 100 et 300, voire 500, dire il y a quand même une zone de risque qui demeure assez importante à cette échelle-là. Il faudrait surveiller aussi cette échelle-là. Mais on a fixé entre 1 et 100. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est attaché à ça ? Ben, tout simplement parce que la réponse à votre question, à savoir, voudrait pas mieux d'abord savoir ce qui est dangereux pour réguler ça, ouais, ben, on l'a pas. On l'a pas. On l'a pas, et ça vous a été dit ce matin. Ce que disent les spécialistes de physico-chimie et de toxicologie, c'est que si on voulait attendre d'avoir une réponse sur le risque, c'est-à-dire à la fois l'exposition et le danger lié à ces produits mis sur le marché à l'heure actuelle en Europe, il faudra attendre 50 ans. Et que le droit a un tout petit peu évolué par rapport à ce qu'on faisait, par exemple, dans les années 50. On n'en est plus à une époque où on attend que le risque soit avéré. Autrement dit, on n'attend plus d'être capable de probabiliser une survenance de dommage, de dire si vous avalez de la javel, vous avez 99% de chance d'avoir très mal. Si vous avalez de l'eau contenant très peu de chlore, il y a des chances, selon la proportion de chlore dans votre eau, pour que la douleur soit inférieure. D'accord ? Ça, c'est un risque probabilisable. Et pour gérer ce risque probabilisable, on applique des principes juridiques qui existent depuis le début du XXe siècle, qui s'appellent les principes juridiques de prévention. Le principe de prévention consiste à dire, je sais que si je vais dans tel sens, que si je commets telle action, je prends un risque, je probabilise mon risque et je fais le choix de le courir ou pas. D'accord ? Et faisant le choix de le courir, ben je peux aussi choisir de mettre en œuvre d'autres mécanismes juridiques, comme par exemple l'assurance. Collectivement, on sait tous que si vous prenez le volant d'une voiture, vous avez un pourcentage de chance d'avoir un accident de voiture. Et collectivement, on a décidé qu'on allait vous laisser la possibilité de passer le permis et de conduire une voiture, et qu'on allait mettre en place des mécanismes d'assurance obligatoire du conducteur pour que socialement, le risque que vous prenez et que vous faites prendre à la collectivité, il soit supportable. Ça, c'est la responsabilité du XIXe siècle. On n'attend pas totalement que le dommage soit advenu pour réparer. On prévient l'occurrence de dommage à condition que la survenance du risque soit probabilisable. Avec le principe de précaution, à partir des années 70, et plus spécifiquement en France des années 90, et puis sa constitutionnalisation en 2005, on passe à l'étape ultérieure qui consiste à dire, même si le dommage n'est pas arrivé, même si le risque n'est pas probabilisable, les pouvoirs publics, à partir du moment où un risque est détecté, où un risque apparaît dans la littérature, doivent se mettre en position de réagir face à ce risque. Et les tentatives que vous voyez là, ce sont des tentatives de mettre en œuvre ce principe de précaution. Le risque, c'est je manipule des matériaux à l'échelle de l'infiniment petit, et des premières études, ou un certain nombre d'études, montrent que comme c'est tout petit, ça passe facilement plein de barrières. La barrière sanguine, la barrière hémato-encéphalique, la barrière placentaire, etc., etc., qui peuvent éventuellement être passés par ces particules. Autrement dit, notre corps n'est pas nécessairement adapté pour répondre à ces objets-là. Donc il y a potentiellement un risque, sans être capable de dire exactement quel il est. À l'heure actuelle, on commence à avoir des réponses sur des nanomatériaux bien particuliers, et encore en conditions expérimentales, etc. On est dans du risque hypothétique. Mais on cherche à répondre. Et pour répondre, sans savoir caractériser scientifiquement les objets qu'on regarde, et sans savoir quel est concrètement le risque, puisqu'il n'est pas probabilisable, on patouille.
Et pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas caractérisables scientifiquement ?
Quoi, les risques ? Ah, les objets là ?
Oui.
parce que à l'heure actuelle, c'est difficile de mettre deux scientifiques d'accord sur le fait qu'ils regardent bien le même objet. C'est un constat, c'est pas moi qui l'invente. Si vous interrogez des physico-chimistes et que vous leur dites, quand tu lis cet article publié dans Science ou Nature portant sur telle nanoparticule qui produit tels effets, est-ce que tu penses que l'objet étudié est bien caractérisé ? En général, ils vous répondent non. Oui.
Dans l'absolu, on ne peut rien caractériser. Il faut fixer des limites, il faut fixer des domaines. À partir de là, on peut tout caractériser. Donc, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette approche-là, dans le sens où ces deux scientifiques qui peuvent se mettre d'accord s'ils disent là, c'est une, je ne sais pas, je prends quelque chose sur le tas, mais une caractérisation optique, est-ce que c'est juste OK ? Mais si on passe à un autre domaine, ça ne l'est pas. Et je profite du fait d'avoir le micro pour continuer à poser des questions.
Allez-y.
Enfin, c'est des petits constats, dans le sens où j'ai l'impression que cette échelle arbitraire qui a été fixée de 0 à 100,
ouais.
Elle vient de la peur de l'inconnu, de l'infiniment petit, avec les risques que ça peut engendrer. Et implicitement, c'est le fait qu'on ne puisse pas les voir à l'œil nu, comme ça a été dit ce matin, qui suscite cette peur. Mais les objets micrométriques non plus, on ne les voit pas à l'œil nu.
Et je me demandais, est-ce qu'il y a une législation sur tout ce qui est substance à l'échelle micrométrique ? Et à partir de là, le fait d'avoir fixé cette échelle de 1 à 100 nanomètres, de 101 à 999 nanomètres, avec la possibilité qu'il n'y ait pas de législation ou qu'il y en ait une pour les objets micrométriques, ça rentre où ? On en fait quoi ? Ça veut dire qu'un industriel qui va pouvoir trouver les bons arguments va juste produire des particules qui font 101 nanomètres, qu'elles soient nocives, dangereuses ou pas, et pouvoir l'utiliser comme il le veut.
Alors, pour votre dernière question, la réponse est oui.
Okay, d'accord.
Si ça range pour fabriquer à 101 dans les trois dimensions, il est bon. Alors, ce n'est pas qu'il peut fabriquer ce qu'il veut, parce qu'il fabrique quand même une substance chimique qui est soumise à des réglementations liées aux substances chimiques. Il fabrique quand même un ingrédient qui va être soumis aux réglementations sur les ingrédients, etc. etc. Mais on ne prendra pas en compte de manière spécifique juridiquement la dimension nano de l'objet qu'il est en train de fabriquer. Vous avez raison. Sur la caractérisation, alors ce n'est pas moi qui peux argumenter là-dessus, hein, mais c'est ce que je vous montrais au travers des débats qui ont lieu à l'OCDE. C'est-à-dire que même quand tous les pays, et ce sont des experts de caractérisation physico-chimiste hein, qui se réunissent, physico-chimiques qui se réunissent dans ces groupes d'experts, tous les pays cherchent à savoir, on va lancer un grand programme d'études sur un certain nombre de nanomatériaux à l'échelle mondiale, pour savoir, entre autres, si on est capable de créer un étalonnage par grande famille et dire, bah, il faut axer les interdictions ou les autorisations, etc., plutôt sur les choses qui ressemblent aux nanotubes de carbone, ou plutôt sur les choses qui ressemblent au zinc, ou plutôt sur les choses sphériques, ou plutôt sur les choses en forme de fibres, par exemple. Hein. Puisque autour des fibres, on avait quand même la question du modèle amiante. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le dernier. Et je vous passe les débats qui ont lieu sur chacun des éléments de caractérisation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit il faut caractériser la phase cristalline, encore faut-il se mettre d'accord sur avec quel instrument, comment est-ce qu'on le règle concrètement et comment est-ce qu'on se met d'accord internationalement pour adopter les mêmes modalités de réglage de cet instrument-là. Ça, c'est valable pour chacun des éléments de caractérisation. C'est valable encore plus pour le dernier, toute autre information pertinente. Donc on a un vrai problème, qui est un vrai problème, il existe dans plein d'autres domaines de développement scientifique. Hein. Mais le fait est que juridiquement, ça pose un problème si on pense la question et la légitimité du droit sur la question uniquement de la gestion du risque. On se mord un peu la queue. Hein.
Oui, là je suis d'accord avec vous, je n'avais pas compris dans ce sens-là. Ou quand je vous parlais de définir des domaines, par exemple, pour caractériser le danger, je prends un exemple très parlant, je pense, pour la plupart des gens ici, l'éthylène glycol. On l'utilise très rarement dans les laboratoires parce qu'il est très dangereux. Par contre, il est dans les toutes cigarettes électroniques qui se respectent et tout le monde en ingère tous les jours sans le savoir. Donc dans chaque domaine, je ne dis pas que ce n'est pas du tout dangereux pour la santé, c'est juste que l'étude n'a pas été menée assez loin. Par contre, dans les laboratoires, on va dire éviter. Nous, on sait que c'est dangereux, on ne va pas le faire. Par contre, on va laisser les gens consommer sous une autre forme. C'était plutôt pour retrouver un semblant de parallèle.
On en est à peu près là. C'est-à-dire qu'on a dit, dans les cosmétiques, il faut les caractériser d'une manière et les déclarer, sachant qu'une fois que le grand public a sa boîte de crème solaire avec marqué nano dessus, ça l'informe quand même assez modérément, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Vu que ça informe déjà pas les gens qui savent ce qu'est le dioxyde de titane, ce qu'est le dioxyde de titane à l'échelle nano selon les définitions juridiques légalement admises, et quels sont leurs effets toxicologiques. On le sait pas.
Très et pourquoi bien, pas adopter comme les industries pharmaceutiques un principe de test avant de lancer sur le marché tout simplement?
Ça fait partie des pistes suggérées par les derniers rapports de l'ANSES. Mais c'est lourd et coûteux, socialement.
Mais là, pour finir, j'entendais la personne, vous, qui disiez bon, la façon dont c'est présenté, ça, on diabolise les nanos. C'est pas le but hein, de nos journées de diaboliser les nanos. C'est le but, c'est de. Non, mais c'est important ce que vous dites. Vous avez raison de faire une définition. Oui, diaboliser. Mais le citoyen moyen ne comprend même pas ce que c'est que les nanos. Donc voilà. Mais ce qu'a dit la personne de la... Oui, c'est vrai. La personne de la CFDT ce matin l'a bien dit, ça se passe aussi avec les travailleurs, etc., et le public. Non, c'est pour informer. C'est pour informer. Après l'information, on en fait ce qu'on veut. Nous, c'est pas le. C'est ce que disait aussi ce matin justement la personne Gérard Rayotte. Il disait il faut pas ne pas y aller. C'est-à-dire, ça serait terrible qu'on ne cherche pas à travailler sur des progrès scientifiques. Mais vous voyez la complexité quand même des sujets quand on met des gens ensemble comme ça, des juristes et puis des personnes, des philosophes, des historiens. Vous voyez, déjà, c'est un aspect seulement de ce qu'on a fait sur les nanos à l'espace Malestran. Je vous dis, on a eu 35 intervenants sur les nanos. Vous imaginez ce qu'on a brassé comme sujet. Hein, c'est... Enfin, écoutez, merci beaucoup. C'est toujours passionnant, merci Stéphanie. Merci à vous.